Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Je suis parti en Californie pour rencontrer David Lynch, Francis Ford Coppola, pour aller leur montrer notre ampli, hein, c'était même pas fantôme, hein, et pour leur dire ça, ça existe et ça va tout changer.
Bienvenue dans Takeoff, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Deezer ou votre plateforme favorite. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin je suis à Paris chez Quentin Sagnier. Dans son salon, il m'explique comment il a cofondé De Vialet il y a 10 ans avec l'ambition de devenir le leader mondial du son. C'était un rêve d'adolescent. Lorsque Quentin Sagnier imagine De Vialet avec un cousin et un ami, il voit d'emblée toutes ses applications. Une enceinte, bien sûr, mais aussi l'intégration de leur technologie dans une voiture, une box internet ou une télévision. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la trajectoire fulgurante d'une entreprise qui a levé plus de 150 millions d'euros, a convaincu des investisseurs comme le rappeur Jay-Z ou l'ex-ministre Fleur Pellerin. Il vient de prendre du recul en abandonnant une partie de ses fonctions opérationnelles. Voici comment il imagine la suite.
Ça fait 10 ans qu'on a créé De Vialet. Moi, j'ai été celui qui a apporté la vision, l'ambition et qui a conduit la boîte depuis 10 ans. On est aujourd'hui à un moment extrêmement important où sur notre marché débarquent Amazon, Google, Apple. Le marché qui était atone depuis une dizaine d'années, le marché de l'audio est en train d'exploser, il va tripler dans les 4 ans qui arrivent, etc. Donc je pense que c'est exactement le contraire en fait. C'est, d'une part, il y a des opportunités de business pour nos technologies maintenant à saisir en fait, parce que tout le monde s'intéresse à l'audio et qu'on a les meilleures technos au monde pour faire des produits audio. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'audio et qui ne savent pas faire de produits audio, donc on a des opportunités majeures. Et puis je pense que c'est aussi le moment de s'interroger sur la façon dont on va, sur la route qu'on va suivre pour les 10 ans qui viennent, quoi. Et donc, c'est très compliqué à la fois de faire tout ça, et aussi de conduire la boîte au quotidien, ne serait-ce que parce que je suis très souvent absent en fait, parce que je suis un peu partout dans le monde, notamment pour des projets de développement de licence.
Qu'est-ce qui occupe justement le plus votre temps aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, depuis quelques jours, c'est clairement le développement des licences et le travail sur la vision, sur la roadmap produit, etc., qui étaient des choses que je faisais, mais qui, je pense, nécessitent plus d'énergie que ce que je pouvais y consacrer. Et de même que la conduite opérationnelle de Vialet, qui se complexifie aussi parce que la boîte grossit, qu'elle s'internationalise, etc., nécessite aussi plus de présence que je peux en accorder. Donc je pense que c'est pas un pas en retrait ou en arrière, etc. C'est simplement, je pense que ma priorité, c'est ça, et puis c'est ce que j'aime, quoi. Je pense que ce que j'aime, c'est créer, c'est inventer, c'est imaginer, voilà. Plus que gérer, optimiser, voilà. Enfin, je ne me désintéresse pas du détail, mais c'est pas forcément mon talent quotidien que de passer beaucoup, beaucoup de temps à ça.
D'accord. Et alors, si on va revenir un peu au sujet que vous avez évoqué un peu plus tard, mais moi, je voulais qu'on remonte à la genèse de Vialet. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez eu l'idée, donc vous l'avez dit, ça a 10 ans, mais j'imagine que l'idée remonte un peu plus longtemps que ça. Mais est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où ça s'est formalisé?
En fait, c'est un rêve d'enfant ou d'adolescent qui était de monter une boîte dans l'audio. Donc ça, c'était il y a très très longtemps, dans les années 70. Mon cousin, Emmanuel Nardin, donc, qui est aussi cofondateur de Vialet, qui est maintenant, enfin, qui est designer, et moi, on avait un rêve à cette époque. La techno, c'est l'audio, en fait. C'est les chaînes, les magnétos, après il y a le Walkman qui est arrivé, etc. Et nous, notre rêve, c'était de monter une boîte dans l'audio. C'était vraiment le truc qu'on voulait faire. Donc on rêvait beaucoup. Et on avait ça en tête. Et Emmanuel et moi, je pense qu'on est des gens très têtus, quoi. Et donc on a été entrepreneurs tous les deux, très, très vite, enfin, en sortant de nos études. Et puis, Emmanuel, c'est vraiment un passionné d'audio, plus encore que je l'étais moi. Mmh. Et il est venu avec plusieurs fois avec des idées, de boîtes à reprendre, de choses à faire, etc. Et puis, c'était des projets que je ne trouvais jamais suffisamment excitants et ambitieux. Et puis, un jour, il est arrivé avec le projet de... Enfin, il avait rencontré Pierre-Emmanuel Calmet. Mmh. Donc, il était l'inventeur de la techno, il avait entendu le premier prototype qu'avait fait Pierre-Emmanuel, et il commence à me parler de ça. Et là, j'ai compris que c'était, ça devait être le bon. Et moi, c'était un moment où j'avais 45 ans, et moi, je voulais pas être un... J'en ai créé plusieurs, mais une boîte de conseil en stratégie, j'avais pas envie d'être un vieux consultant. Et donc, j'avais envie de faire des choses... dans l'industrie, donc je regardais en fait des reprises de boîtes, des choses comme ça. Et puis j'ai passé du temps avec Emmanuel sur le bord d'une piscine en vacances, d'ailleurs avec nos enfants respectifs, puisque c'est mon cousin et il nous arrive de partir en vacances en France. Et puis j'ai rencontré Pierre-Emmanuel et ça a été le coup de foudre. Et moi j'ai entendu le premier proto, j'ai pleuré et je me suis dit on va tout rafler.
Quoi. C'était donc, quoi le premier son qui vous fait écouter, vous souvenez?
C'est un 23e concerto de Mozart, le deuxième mouvement, qui est un morceau assez lacrymal, faut dire. Donc, enfin, c'est du Mozart, donc immédiatement ça parle. Je pense que ça parle à notre esprit. Ça, voilà, ça a un pouvoir d'évocation très fort et très 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 émouvant. Donc voilà, et je pense que c'était un mélange de ça, et puis je pense d'avoir rencontré, de sentir que c'est ce projet-là et que ça sera celui-là. Quoi.
Mais est-ce que vous avez tout de suite en tête, ça vous le racontez parfois, mais la vision, c'est-à-dire vous avez tout de suite la vision que ça va gagner des voitures, que ça, on va le retrouver dans d'autres objets, cette technologie?
Alors, tout de suite, à la seconde où j'écoute, je dis « on va tout rafler ». Et après, je mets des choses derrière le tout. Et le tout, c'est, ça m'apparaît assez vite que le marché d'audio est un marché assez peu dynamique, en fait, parce qu'il y a des concurrences très fortes, des mobiles, des écrans plats qui se développent, hein, c'est fait il y a 10 ans, hein, donc avec des dynamiques très fortes sur d'autres technologies. Et en fait, mais en même temps, je constate, comme on peut le faire... peut le faire chacun d'entre nous, que du son, il y en a partout, quoi. Il y en a dans, justement, les voitures, les télés, etc. Et que donc, si on a une technologie supérieure, on a la capacité à mettre ces technologies partout. Et je comprends très vite, en fait, que cette technologie, une de ses capacités, c'est qu'elle va nous permettre de réduire la taille des équipements audio et d'accroître très fortement les performances en même temps. Et donc, je me dis... Le jeu ultime, c'est d'aller le mettre dans les mobiles, quoi. Et ça, c'est très vite, en fait. Et on écrit... à l'époque, j'ai encore mon cabinet de conseil en stratégie. Et donc, les consultants de l'équipe et moi, on travaille à ce que peut-être ce projet-là... voilà, et on fixe les 10 ans qui vont arriver. Et ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est suivre ça. Et c'est... Bon, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait depuis 10 ans, le plan d'il y a 10 ans, il est épuisé. Mais qu'il y a aussi des, il y a aussi des éléments nouveaux, des opportunités nouvelles, le monde a aussi changé. Et donc, même si forcément on a tenu compte du monde qui changeait dans ce qu'on a fait depuis 10 ans, je pense que c'est le moment de s'interroger, de se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on veut conduire pour la suite. Quoi.
Et vous le disiez, le son est effectivement partout, mais souvent c'est le parent pauvre dans une télé. Voilà, le son est de très mauvaise qualité, dans un smartphone aussi. Donc à quel moment vous vous dites, ils vont se pencher sur la qualité sonore? Ça va être aussi un des objectifs de sous ces constructeurs.
Mais je pense qu'il y a une valeur émotionnelle du son qui est absolument gigantesque. Le problème du son, c'est que les gens ne savent pas qu'ils entendent la différence. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous posez la question, si vous posez la question autour de vous, les gens, et que vous dites, dites-moi, j'ai entendu le meilleur son du monde, et les gens vous disent, ah oui, non, mais moi, je suis pas un expert, je suis pas musicien, j'ai pas d'oreille absolue, donc je n'entendrai pas. Et en fait, on entend tous, on est capable de très bien de savoir si quelqu'un rentre dans cette pièce et se met à parler, ou si on l'écoute sur un matériel audio lambda, on saura bien, et pourquoi on le sait. Parce qu'en fait, on est très doué, en fait. On a des capacités de captation de l'oreille qui sont absolument extraordinaires. Mais en fait, on l'ignore. Voilà. Et l'industrie a pas fait, enfin, l'industrie du son n'a pas fait son boulot. C'est-à-dire, c'est l'industrie qui a très peu innové pendant des années. L'innovation est venue d'ailleurs. Elle est venue de Sony qui a inventé la mobilité. Avec le Walkman, d'Apple qui a inventé ça avec l'iPod et iTunes, la vente de musique en ligne, enfin de stockage de l'information, etc. Mais finalement, assez peu de l'industrie audio. Et l'industrie audio, c'est quand même une industrie assez paradoxale dans laquelle il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que le meilleur de la technologie, c'est des amplis à lampe, qui est une technologie qui date de 1907, c'est-à-dire de plus d'un siècle. Et je pense qu'il n'y a pas un domaine de l'activité humaine dans lequel on peut penser ça. Je sais pas, c'est même en cuisine, la façon de cuire, enfin des choses très basiques. Je pense qu'on a amélioré tous les domaines, y compris d'ailleurs celui de l'audio, particulier avec De Vialet. Mais voilà, on vit dans une mythologie très très passéiste en fait. Donc je pense que c'est justement ce que fait une entreprise comme De Vialet, qui est de montrer en fait qu'il y a un avenir. Il y a un avenir pour les technologies, pour améliorer l'expérience, et qui le prouve. Donc voilà, aujourd'hui, si vous parlez avec un fabricant de téléviseurs, il est focalisé sur le fait qu'il doit sortir des écrans tous les 6 mois. Il est focalisé par une compétition très 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 forte entre les différents constructeurs, et focalisé sur le fait qu'il gagne très peu d'argent globalement sur le marché, parce que le marché est très très concurrentiel, et il a beaucoup de mal à prendre un pas de côté et de se dire « bon, bah, moi, je vais mettre du son ». Donc sa réponse, c'est « moi, j'ai 2 dollars, qu'est-ce que vous savez faire pour 2 dollars ?» Mais pour ce dollar, il faut... Le problème, c'est que ça part de ça, c'est-à-dire « moi, j'ai 2 dollars ». Après, voilà. Mais de la même façon, qui va faire que le marché de la voiture électrique, de voitures alternatives se développe? C'est pas les constructeurs automobiles, en général. C'est des gens comme Tesla, c'est des gens qui font bouger les lignes. Donc l'audio... Et je pense qu'on n'y est pas pour rien, redevient un élément fondamental, ou devient un élément fondamental des produits. L'audio devient, avec le voice control aussi, l'élément d'interface, un élément d'interface du futur, hein, qui va s'additionner à ceux qui existent déjà, une souris, un trackball, un doigt sur un écran, enfin voilà, et puis la voix aussi. Et puis la gestuelle, enfin tout ça. Donc l'audio devient au cœur. Mais ça c'est des marchés d'offres, donc ça peut venir que d'entreprises comme De Vialet qui poussent dans ce domaine. Quoi.
Et dans les objets que vous aviez imaginé pouvoir embarquer la techno il y a 10 ans, est-ce qu'il y en a dans lequel ils ne sont pas encore embarqués, et lequel serait le plus fou pour vous embarqué
dedans. J'ai beaucoup d'imagination. En fait. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a des endroits où je n'ai pas imaginé. Y a forcément... y a la télévision, l'automobile et le smartphone. Enfin, c'est forcément, parce que la télévision, les gens passent encore beaucoup de temps. Enfin, la consommation globalement décroît, mais la consommation de télévision est très, encore très, très, très importante. Et c'est un vecteur majeur de son, en fait. L'automobile... parce que c'est aussi un marché très important, on y passe beaucoup de temps, et l'automobile devient connecté, devient autonome, et donc dans une voiture, la valeur de l'entertainment ne va cesser de croître, et donc je pense que c'est fondamental, et smartphone, parce que c'est le plus gros marché mondial. Ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est les smart speakers, en fait. Mm. On va dire que ça, c'est des aléas, là, pour le coup, chanceux. Enfin, je ne crois pas beaucoup à la chance, je crois plus au travail qu'à la chance, mais en l'occurrence, je trouve que c'est quand même une circonstance chanceuse qui fait que nous, on arrive sur le marché avec nos technos licenciables, précisément au moment où ce marché est en train d'exploser. Donc, il y aura encore des surprises, mais...
Des surprises, c'est-à-dire
Des surprises de ce type-là. Ah ben, Vialet, oui, il va résolument...
Gagner, enfin, être embarqué dans l'un des smart speakers.
Dans des smart speakers, forcément.
D'accord. Et du coup, vous avez déjà des contacts précis, avancés avec ces gens-là?
On parle avec énormément de gens, dans le monde entier, et tous ceux que vous pouvez imaginer.
D'accord. Et est-ce que pour les téléviseurs, leur première obsession, finalement, c'est pas le prix, c'est-à-dire de faire en sorte que ce prix soit le plus réduit possible, ça évidemment, mais est-ce que c'est une composante à part? Est-ce qu'ils le considèrent comme une composante à part ou une composante clé pour demain?
Alors, effectivement, le prix est déterminant. Et en fait, la fonction première d'un smart speaker n'est pas le speaker, c'est le micro. Donc c'est bien, simplement, on va donner des ordres, on va demander de l'information, on va demander une action au speaker, enfin à cet objet. Et cet objet, donc d'abord sa première fonction, c'est un micro. Et je ne trahis pas de secret si je dis que Amazon, quand ils ont lancé leur ICO, leur premier... ils ne s'attendaient pas à ce que 70% des usages de ce produit-là soient l'écoute de musique, en fait. Et de fait, ce n'est pas vraiment un produit pour écouter de la musique. Mais il se trouve que une des fonctions premières, la fonction la plus utilisée sur ces haut-parleurs, ces speakers, c'est la fonction d'écoute de musique. Dès lors que c'est le cas, et en particulier, dès lors qu'Apple arrive avec un produit duquel il vante la qualité du son, moi, si je suis un acteur de ce marché-là, et en particulier Amazon, par exemple, mon inquiétude, ça peut être que au milieu de la family room, de la cuisine, voilà, où trône aujourd'hui le produit d'Amazon, le produit d'Apple s'y substitue parce qu'il va avoir un meilleur son. Et donc, notre vocation, c'est pas forcément le produit à 100$ qui assure la fonction micro, comme le Google Home ou le Amazon Echo, etc. Mais c'est d'être le produit qui va apporter un peu plus de valeur sur l'expérience, mais qui peut quand même être un marché de masse, mais à quelques centaines d'euros ou de dollars. De 100, 300, quelque chose comme ça. C'est plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt ça notre vocation. Et on voit que Apple est sorti avec une proposition de son qui est meilleure. Google a aussi sorti un produit avec une proposition de son qui est meilleure. On voit aussi que Sonos intègre les fonctions d'Alexa dans ses produits, etc., etc. Donc y aura forcément un appétit pour des produits qui sont capables de délivrer une expérience plus émotionnelle. Et on a des produits qui sont incomparables avec ceux de la concurrence. On a développé des produits de ce type-là. On a présenté aussi yes, un produit qui est un smart speaker avec des performances qui sont très, très loin devant la compétition et avec des prix qui sont des produits qui permettent d'en faire un produit de masse, pas à 100 dollars, mais à un peu plus que ça. Quoi.
D'accord. Et ce nouveau produit, ce nouveau marché qui s'est créé, auquel vous ne vous attendiez pas, est-ce qu'il peut faire revoir votre stratégie ou vos ambitions en termes d'entreprise? Là, vous parliez d'une introduction en bourse à l'horizon 2020, en tout cas c'était un des objectifs. Est-ce que demain, ce changement de paradigme avec des acteurs quand même très très puissants peut vous faire changer et varier de cette trajectoire?
Alors c'est pas un changement parce que tout ça c'était prévu depuis le début que les licences allaient être le cœur du dispositif, un élément essentiel du dispositif. Mais on va dire que ça les accélère, ça explique le fait que j'y consacre maintenant vraiment l'essentiel de mon temps. Ça explique aussi qu'il faut face à ça et face spécifiquement à l'émergence du marché des smart speakers, adapter nos réponses et voir loin. C'est-à-dire que il faut être capable de se projeter sur un marché dans lequel la commande vocale est devenue un élément important. Il faut être capable de se projeter sur un marché dans lequel on a séparé une des fonctions de nos smartphones et qu'on l'a mis au milieu du salon avec de la commande vocale. Hein, le smartphone a tout rassemblé. Il a rassemblé l'agenda, le téléphone, il a rassemblé la borne de taxi, il a rassemblé la carte, il a rassemblé l'appareil photo, il a tout rassemblé. Et c'est la première fois depuis une dizaine d'années que l'iPhone est arrivé qu'il y a une fonction qui sort de l'iPhone, qui est la commande vocale. Cette fonction elle est matérialisée dans un nouveau produit. Voilà. Ça, c'est des mouvements de bundleisation et unbundleisation, c'est-à-dire de rassemblement et de séparation, qui sont des mouvements qui sont très créateurs de potentiel de valeur sur le marché de la tech. Hein, aujourd'hui, par exemple, la fonction télévision, elle est aussi sur une tablette. La fonction de télévision, elle est aussi sur un smartphone à moindre titre, mais enfin pour regarder certaines choses, c'est parfait. La fonction de commande sur Amazon, elle est sur des boutons, elle est aussi sur des speakers. Et donc, si vous êtes une compagnie de tech qui fait du son, quel va être l'avenir de votre métier compte tenu de ces bouleversements-là? Je pense que c'est pas mauvais à un moment de s'arrêter un peu. Enfin, ça veut pas dire qu'on continue pas à foncer, mais d'une part de prendre les marchés qui existent et en même temps de regarder ce qui est en mesure de se profiler dans le futur pour adapter des choix de technologie. Quand on développe un circuit intégré, c'est à peu près 2 ans de travail. Donc il faut voir à 2 ans, quoi, le chip sera là dans 2 ans, et il sera embarqué dans des produits dans 3 ans. Et donc quels sont les composants électroniques dont on aura besoin dans 3 ans? Il faut les penser aujourd'hui. Il faut les penser aujourd'hui. Et la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. il faut se penser à ça, sur ces éléments-là, pour imaginer ce que peut être devenir demain. Donc c'est pas un changement de trajectoire, c'est plutôt une intensification. Plus on arrive au moment qu'on a rêvé et qu'on a imaginé, plus la granularité du temps et le réel devient prégnant, et il faut aussi en tenir compte.
Dans ma question, je pensais aussi à la trajectoire vraiment business de la boîte. C'est-à-dire, est-ce que là, vous avez clairement, j'imagine, écarté quelques offres de rachat dans 10 ans? et vous êtes focalisé sur cette introduction en bourse. Et est-ce que voilà, avec l'arrivée de ces gros acteurs qui ont des moyens incroyables, un potentiel rachat pourrait se présenter et pourrait vous faire changer d'avis?
C'est pas du tout l'objectif. C'est pas l'objectif. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de conduire cette aventure et de la vivre. C'est pas d'être riche à millions et de voilà. Donc non, l'objectif c'est de conduire la boîte, c'est de la développer, c'est de lui donner un avenir absolument exceptionnel, c'est de faire rêver les gens, c'est d'apporter du bonheur aux gens par la musique, par le son, c'est ça qui fait qu'on peut se lever le matin.
Mais du coup, dans un écosystème où voilà, la trajectoire justement est quelque chose de très tracé avec la création, l'amorçage, les levées de fonds, l'exit, la sortie, quelle que soit la sortie envisagée, est très pavée en quelque sorte. Comment vous avez réussi à construire cette trajectoire en arrivant à convaincre les investisseurs aussi?
Je pense que les investisseurs qui sont entrés dans De Vialet sont entrés pour l'ambition de De Vialet, ils sont entrés pour faire un projet à long terme, ils sont entrés en embrassant la vision de De Vialet. Et enfin, on leur a toujours dit, si vous rentrez chez De Vialet pour changer De Vialet, ne rentrez pas, quoi. Enfin, c'est pas, on fera pas autre chose que ce qu'on vous a dit. Donc cette autre chose peut être modulée par le réel, le quotidien, les choses difficiles, les choses faciles, les opportunités, les choses sur lesquelles on peut buter. Mais la perspective, elle est là depuis le début. Et les gens qui sont entrés avec cette perspective-là et l'envie d'accompagner. Après, je conçois que ces gens-là peuvent avoir l'envie à un moment de sortir, d'être liquide, voilà, etc. D'où le fait d'aller sur le marché financier est une sortie normale et cohérente de ce point de vue-là. Mais c'est pas un hésite au sens où c'est une façon au contraire de permettre à la boîte de continuer son projet.
Alors justement, cette perspective de financiarisation sur les marchés demande une image très claire et très lisible pour les potentiels investisseurs particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint ce stade où vous pensez que voilà, De Vialet a cette image à l'échelle mondiale est prête?
Alors moi, je me réveille tous les matins en me disant que personne ne nous connaît, tout le travail est à faire et qu'on est tout petit et qu'on a voilà qu'on a beaucoup 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 à gravir encore. Donc j'ai pas du tout le sentiment qu'on a réussi. On a réussi un certain nombre de choses, on est préparé pour l'avenir, mais beaucoup de choses restent à faire, quoi. Je me lève pas en me gargarisant de satisfaction, mais plutôt en voyant avec gourmandise et appétit ce qui nous reste à construire. Donc on a des atouts absolument exceptionnels sur le plan technologique et sur le plan de mise en œuvre de ces technologies. On est sur un marché global dans lequel ces technologies prennent de plus en plus de valeur. Voilà, à nous de tout aligner pour être capable de capter cette valeur-là, d'une part rapidement, et d'autre part de préparer l'avenir pour être capable de faire en sorte que ça dure et que ça soit et qu'on ait des perspectives de croissance pour De Vialet dans l'avenir qui soient considérables.
La durabilité, c'est l'une des choses les plus fragiles et les plus dures à accomplir pour une start-up. Est-ce que le fait d'avoir autant d'entrepreneurs qui ont réussi à vos côtés est une aide? Et si oui, très concrètement, voilà, je voulais savoir si certains d'entre eux vous ont apporté à des moments donnés des conseils vraiment décisifs dans l'histoire de l'entreprise.
Ce choix qu'on a fait d'entrepreneurs, c'est parce que précisément, c'est des gens qui savent et qui savent la difficulté qu'il y a à faire exister une entreprise, à la faire croître et à la faire durer. Donc je pense que c'est nos actionnaires, ils ont une vision assez saine de ce que doit être de Vialet. Et ils ont pu nous apporter, effectivement, au cours des dernières années, des aides déterminantes sur notamment dans le cas du développement de licences ou nos choix un certain nombre de choix technologiques, enfin ils ont pu nous apporter des aides de ce type-là. Après, vous êtes c'est vous qui êtes en charge de la boîte, c'est pas eux, donc ils sont actionnaires, ils dirigent pas la boîte, et donc et c'est pas leur volonté, donc ils se placent jamais dans une logique qui est une logique de conduite à distance, de téléguidage ou de voilà, c'est pas du tout le mode de leur mode de fonctionnement, mais ce sont des gens éclairés, c'est des gens qui conduisent des entreprises qui ont un grand succès. Voilà, après chaque entreprise est très différente. De Vialet est sur un marché de compétition mondiale, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos actionnaires, qui est d'emblée dans ce grand bain-là. C'est une boîte de technologie, ce qui n'est pas forcément le cas de nos actionnaires. Donc voilà, donc il y a des même si chez les uns et chez les autres, il y a des composantes technologiques dans ce qu'ils font. Donc il y a un particularisme très fort et moi je crois absolument pas à des notions comme des notions de secteur ou des choses comme ça, c'est-à-dire le fait de regrouper, voilà, vous regroupez tous les fabricants d'ordinateurs de la planète dans un groupe et vous allez dire ça c'est le marché des ordinateurs, et puis un jour un de ces fabricants d'ordinateurs lance un téléphone mobile et il se trouve que ce téléphone mobile supprimer du marché mondial du mobile 90% des fabricants de mobiles de la période d'avant. Et donc précisément, ça prouve bien que si vous regardez le marché des mobiles ou le marché des ordinateurs, vous n'allez ni comprendre qu'Apple se lance dans un smartphone, ni comprendre que Nokia va disparaître. Et moi, avant la sortie de l'iPhone, j'ai entendu beaucoup de gens des télécoms expliquer que ah ouais, un ordinateur c'est très facile, mais là maintenant il va s'agir de faire un téléphone, ça va être très compliqué, ils vont pas y arriver, etc. etc. On est 10 ans après, ces boîtes-là n'existent plus. Et Apple, en 4 ans, avait conquis 5% du marché mondial du téléphone en volume, mais 50% du marché mondial en valeur. Donc avec capté l'intégralité, quasiment, enfin, à son échelle, avait capté toute la valeur du marché. Et le marché est dans sa poche, quoi. Et puis après, il y a les applications, les services, enfin, tout ce qui est venu dessus, là, un écosystème qui est incroyablement foisonnant, riche, etc. Donc le conduire la vision, la stratégie d'une boîte comme de Vialet, c'est sur des périodes longues, hein, de 10 ans, de 20 ans, c'est pas s'enfermer dans des logiques sectorielles ou des... Voilà. C'est pour ça que je dis on est une entreprise de tech. Il se trouve qu'on est dans le secteur du son, mais dans les technologies qu'on a, Il y a des technologies qui peuvent servir à des usages complètement différents. On a des, voilà, on m'a dit, j'ai pas fouillé le sujet, vous allez comprendre pourquoi. On m'a dit que par exemple, on a des alimentations qui sont capables de délivrer une puissance de crête extrêmement élevée, 4500 watts de manière impulsionnelle, alimentation électrique très très compacte, etc. On m'a dit ça, c'est idéal pour des missiles. Donc je suis pas sûr d'avoir envie de développer des technologies pour les missiles. C'est un euphémisme, mais voilà. Donc on peut imaginer des usages extrêmement différents de technologies dont on peut disposer et qui demain vont faire la fortune de Vialet. Donc il faut avoir cette ouverture en permanence.
Et alors, juste pour revenir sur les investisseurs, il y en a un qui m'intrigue particulièrement à plusieurs titres. C'est Jay-Z, le rappeur américain, milliardaire, premier milliardaire du rap. Comment s'est fait cette mise en relation? Est-ce que vous l'avez rencontré?
Bien sûr. Hein. En fait, moi, ce qui m'intéressait particulièrement avec Jay-Z, parce qu'on aurait pu signé avec des grandes maisons de disques, ou pas signé d'ailleurs, mais enfin on aurait pu faire rentrer d'autres gens au capital. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage et c'est son histoire. Voilà, un gosse pauvre de Brooklyn, voilà, qui vient d'un milieu très défavorisé et qui va inventer sa vie. Et non seulement inventer sa vie, mais enfin drainer derrière lui aussi énormément de gens. Qui est dans la, je pense, dans la lignée qui participe de la musique, qui est sans doute la musique la plus influente du siècle, de tout le siècle qui vient de se passer, et un peu plus, et qui naît dans les champs de coton d'Alabama, qui naît même en Afrique avant, qui est la musique des esclaves, la musique de cette souffrance infinie, et qui va essaimer du blues, du jazz, du rap, du hip-hop, enfin voilà, et qui va nourrir toutes nos musiques, en fait. Toutes nos musiques sont pleines de ça. Et l'histoire a toujours un rôle, est important chez De Vialet, enfin, de savoir d'où on vient et de savoir ce qui nous a fait, et la musique est aussi riche de ça. Et donc, pour moi, c'est ça que j'avais envie de prendre avec nous, en fait. Et donc, on s'est rencontrés. Il est absolument passionné par ce qu'on fait. Moi, je l'ai vu comme un enfant émerveillé devant Fantôme. Et voilà, donc les choses se sont faites assez naturellement, comme ça. Et en fait, ça s'est fait pratiquement, enfin, on s'est rencontrés à New York, mais ça s'est fait pratiquement avant chez Tidal, parce qu'ils ont acheté Tidal. Et en fait, Jay-Z était à Oslo, où il visitait Tidal, qui venait d'acheter. À Oslo, ils avaient un fantôme à Oslo chez Tidal, parce qu'on avait intégré le service Tidal dans Fantôme. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais à Los Angeles où je rencontrais l'associé de Roc Nation. Mm-hmm. Je le rencontrais pour lui présenter Fantôme, et au moment où j'étais dans son bureau, c'est une histoire absolument incroyable, il reçoit un mail de Jay-Z avec une photo du fantôme pris à Oslo en disant « Tu devrais rencontrer ces gens-là ». Et donc voilà, c'était des. Et donc évidemment, on s'est rencontrés peu après à New York. Et voilà, mais c'est. Ça, c'est des petits clins d'œil de l'histoire. Mmh. Il faut que on se dise qu'il y a quelque chose de magique. Je ne crois pas du tout à ces choses-là, mais voilà, il se trouve qu'il y avait dans cette rencontre quelque chose de magique de ce type-là.
Mais c'est vrai que vous avez quand même fait la démarche d'aller rencontrer les Roc Nation, donc qui est l'ombrelle qui appartient, enfin l'entreprise qui appartient à Jay-Z avec laquelle il produit ses concerts notamment. Mais ça démontre un certain culot, en tout cas une certaine manière de faire pour aller chercher justement des partenaires, des clients, etc. Qu'est-ce qui motive ça? Comment vous avez réussi à construire ça au fil des ans? Et quels petits conseils vous pourriez donner aux...
Mais il faut avoir faim, il faut croire en ce qu'on fait, il faut... quand on a sorti notre premier ampli, moi je suis parti en Californie pour rencontrer David Lynch, Francis Ford Coppola, pour aller leur montrer notre ampli, hein, c'était même pas fantôme, hein, et pour leur dire ça existe et ça va tout changer. Et
ils vous ont reçu.
Ouais, ils nous ont reçu parce que dans nos actionnaires, il y avait aussi des gens de Canal+, qui connaissaient bien ces gens-là, etc. Donc voilà, donc c'est des moments incroyables qui vous donnent un fuel incroyable. Et j'y allais sans intention précise, c'est-à-dire je n'attends rien de particulier que de rencontrer, de séduire, de prendre le fuel et de repartir. Et voilà, et je l'ai fait de la même façon avec Fantôme, avec toute l'industrie du disque à Los Angeles, etc. Ce qui donne des occasions d'apprendre énormément, de se nourrir de ce qu'ils vous disent, de comprendre ce qui va être possible, ce qui va être très difficile. Voilà, mais donc il faut pousser, quoi, comme des fous. Et voilà, quelques semaines après, quelques mois après, quelques jours après, ou même au moment même, voilà, vous êtes, parce que chez Tidal, de la même façon, on était allé à Oslo pour aller leur présenter, etc. Et donc, le produit était là, parce qu'on leur avait offert, et on est allé à Los Angeles, et on a rencontré des gens qui nous ont connectés à toute l'industrie et au cinéma et à la musique à Los Angeles, etc. Et donc tous ces efforts-là, à la fin, ça fait qu'au moment où il se trouve, qu'au moment où vous rentrez dans le bureau de J-Ron, il vient de recevoir le mail de Jay-Z qui dit « tu dois rencontrer ces gens-là ». Et donc, mais tout ça, c'est du travail, quoi. Après, mais ça crée des choses. Quand on a lancé Fantôm, je suis parti en Californie, on a rencontré, grâce notamment à Loïc Lemeur, qui nous a présenté à beaucoup de gens, à Marc Benioff, qui nous a présenté à beaucoup de gens, etc. On a rencontré plein de gens pour leur présenter le produit, ce qui fait que, voilà, le jour où on a demandé à Marc Benioff, tu connais qui chez Apple, à qui tu peux nous présenter. Dix minutes après, on était en contact avec Angela Arendt. Mm-hmm. Et par ailleurs, on était en contact avec Tim Cook. Mais pareil, c'est des mois et des mois de travail. Voilà, il n'y a pas de hasard. À un moment, si vous faites des centaines de connexions, vous allez créer un réseau qui va fabriquer des choses exceptionnelles. Voilà, il y a une part de risque. Il faut mettre beaucoup d'énergie dans tout ça, mais pour faire des grands deals, voilà, pareil chez Sky, c'est voilà, d'avoir des volontaires en tête, de rencontrer le patron de la technique de Sky, un événement de la French Tech. Mm-hmm. Et de voilà, et d'avoir en tête nos objectifs et lui dire toi, il faut que voilà, il va falloir qu'on se voit, quoi, et voilà pourquoi, et que cette personne là elle a déjà entendu parler de Vialet auparavant par un certain nombre de gens qui voilà, mais c'est tout ça qui fait que vous êtes dans la tête des gens et dans les barbecues du vendredi soir de San Francisco ou de Palo Alto. Ce dont on parle, c'est de Vialet. Et c'est voilà. Et parce que vous avez pris votre bâton de pèlerin et que vous êtes parti faire ça et aller convaincre un par un des gens influents, et puis il y a des rendez-vous qui ne servent à rien, vous avez, au moment où vous le faites, vous avez ce sentiment-là, et qui vont se révéler incroyablement riches, d'autres qui sont des rendez-vous incroyablement magiques, et puis finalement qui donneront rien maintenant, mais peut-être qu'un jour, peut-être que... Voilà.
Vous vous souvenez de la rencontre un peu la plus folle dans cette histoire? La plus improbable?
La rencontre la plus improbable... La rencontre... une des plus extraordinaires, ça a été avec Angela Arendt et Apple. Parce que je l'ai fait comme les autres, c'est-à-dire évidemment, j'avais la perspective de « on va pouvoir rentrer chez Apple », etc. Mais j'y suis allé d'une certaine façon. Uniquement pour la séduire, enfin au sens de qu'elle ait envie de devenir, qu'elle ait envie de ça. Et en même temps, j'étais... absolument convaincu en allant à ce rendez-vous que les choses se feraient. Jamais j'ai imaginé sortir de son bureau et qu'il ne se soit rien passé. C'était hors de ma pensée. Et donc, je pense qu'il y a un moment, votre désir devient le désir de la personne qui est en face de vous. Et c'est, je veux dire, si vous êtes... si vous êtes possédé par votre sujet, si vous êtes profondément passionné par ce que vous faites, si vous êtes riche de tout travail des équipes aussi qui fabriquent, enfin qui conçoivent, fabriquent ces produits, etc., les choses ne vous échappent pas, quoi. Et c'est ce qui s'est passé au sens où, au bout d'une demi-heure, c'est elle qui me disait qu'elle voulait qu'on rentre chez Apple. Donc c'est... Voilà, c'est des moments comme ça où vous construisez votre avenir, votre futur par le fruit de votre détermination, voilà, de renoncer à rien, à tout moment quand vous le faites. Et donc à la fois il n'y a pas d'intention. Je suis pas arrivé en disant bah voilà, on voudrait rentrer dans vos magasins, etc., etc. Je suis arrivé, j'ai dit voilà ce qu'on veut faire avec De Vialet. Voilà, et j'ai raconté mon histoire avec Apple. J'ai raconté le jour où j'ai rencontré mon premier Mac fin 1984. Donc dans un magasin à Apple, hein, c'était un vendeur qui avait rien à voir avec les magasins d'Apple d'aujourd'hui. Et j'ai vu ce truc là. Et je l'ai essayé, et je me suis dit, ce truc va changer le monde. Je me suis dit, je veux être de ça. Et j'ai couru à la banque, j'ai emprunté 20 000 francs à l'époque. Hein, j'ai emprunté 20 000 francs, et puis 15 jours après, j'avais mon prêt étudiant, et j'ai acheté mon Mac. Et je ne savais absolument pas pourquoi, à quoi ça allait me servir. Mais c'était ça. C'était ça que qui allait changer... le monde. Et quand on a créé De Vialet, on voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De Vialet. Et on avait la golden bullet pour aller le toucher. Et malheureusement, quand on a sorti notre premier produit en 2010, c'était déjà trop tard. Mais c'était, comme c'était un passionné de musique, d'audio, etc., il y avait ça dans le... Donc forcément, j'ai été...
Vous avez pu le rencontrer ?
Non, j'avais pu le rencontrer, non.
Et cette détermination, cette méthode, parce que c'est une méthode aussi d'approche, de convaincre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ? Est-ce que c'est de l'ordre de l'intuitif ? Pareil, comment les jeunes entrepreneurs peuvent embrasser cet état d'esprit ?
Je pense qu'il y a il y a beaucoup de travail et je pense que ça, on s'entraîne, hein, forcément à faire ça. Mais après, il y a, enfin, ou avant ça, il y a, je pense, il faut être ardent, quoi. Enfin, il faut être. Je suis quelqu'un de, enfin, sur la brèche, quoi. Y compris émotionnellement. Donc, c'est, je pense que ça me. J'ai appris à faire de ça une arme, à m'en servir, en fait. Et je pense que. Après, les gens sont différents et d'autres gens peuvent se servir d'autre chose, de leur personnalité, qui peut être en soi une force ou en soi éventuellement un élément de faiblesse ou de difficulté pour nourrir leur passion, en fait. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un autre élément, c'est que pour être capable de faire ça, il faut que vous ne pouvez pas être dans le mensonge, en fait. Et donc, il faut que vous ayez aligné tout le reste derrière pour être capable. Donc, on avait les technos, on avait les talents, on avait Pierre-Emmanuel. On avait Emmanuel, on avait les gens qui nous ont rejoints dans l'équipe, etc., qui ont des talents incroyables et qui font que vous savez au moment où vous allez poser le fantôme sur la table que c'est un produit exceptionnel, qu'au moment où vous allez faire play, il va se passer quelque chose d'incroyable, etc. Et donc après, nourrissez-vous de ça. Et puis, c'est la musique, c'est-à-dire vous créez un moment. Vous créez un moment de lien émotionnel incroyable avec les gens. Et donc l'entretien qui suit, il peut pas être pareil. C'est une chance qui est liée au produit. Enfin, c'est une chance, un atout du produit. Voilà, c'est sûr que si je vendais des boulons, ça serait compliqué. Mais je pense à des gens qui travaillent dans le domaine médical, qui créent des produits, des assistants médicaux, etc. Il y a une dimension émotionnelle extrêmement forte. Et donc, il m'est arrivé de leur dire, mais servez-vous de ça, quoi. Servez-vous de ça, parce que l'émotion, c'est le réel. Je veux dire, il n'y a rien de plus réel qu'une émotion. Il n'y a rien. Une émotion est plus réelle qu'un tableau de chiffres qui va. Voilà, une émotion, elle est incroyablement. Constructrice du moment, de la relation, de ce qu'on va faire après, voilà, c'est ça, on vit de ça, on est des éponges, quoi.
Et justement, ces traits de caractère sont pas du tout liés. Enfin, j'essaie de formuler une question autour du visage que prend la French Tech avec beaucoup de stéréotypes sur la typologie des entrepreneurs très masculins, blancs, issus de milieux favorisés, grandes écoles, etc. Les caractéristiques dont vous parlez là sont évidemment universelles. Et pour autant, on a du mal à les identifier parmi les jeunes entrepreneurs et on a le sentiment que ça ne percole pas assez.
Moi, je rencontre des entrepreneurs incroyables qui viennent de tout milieu. Prenez un Uber. Et là, vous avez quelqu'un qui a un. Voilà, c'est souvent la première façon qu'il aura d'entreprendre. Et c'est pour ça que c'est important aussi, ce genre de passerelle, parce que, voilà, il commence à entreprendre, il rentre, voilà, ils achètent une voiture à deux et puis ils se partagent la voiture. L'un le prend de 6 h du matin au début de la soirée et l'autre va faire la nuit, etc. Et puis ils vont prendre une deuxième voiture et puis à un moment ils vont s'émanciper d'Uber, ils vont faire autre chose. Et voilà, mais ça naît comme ça, quoi. C'est-à-dire forcément. Et en particulier quand on parle de technologie, quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, il va être avantagé. Et il se trouve qu'il risque d'être dans des catégories que vous. Voilà. Donc il faut changer la façon et on doit faire évoluer notre système de formation. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour favoriser ça, qui est aujourd'hui un système qui reproduit de manière assez honteux des catégories sociales comme ça, en donnant peu de chance aux gens. Il faut ouvrir le système. Et je pense aussi que c'est ce qu'on fait, faciliter la création d'entreprises. Et puis il faut aussi que des entreprises du type Uber ou d'autres puissent se développer, parce que ça crée aussi des... Voilà. Évidemment, il faut aussi de la régulation, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais voilà. Tu prends un Uber et la personne que tu rencontres, c'est quelqu'un qui a de bonnes chances de précisément être quelqu'un qui vient d'un milieu pas très favorisé, souvent d'origine étrangère à première, deuxième ou troisième génération, mais qui vient d'un quartier qui n'est pas un quartier favorisé, et puis qui a un boulot, il entreprend, et ça commence comme ça. Mais parler avec eux et demander-leur ce qu'ils font. Et voilà. Et moi, je le fais quasiment tous les jours. Et voilà. Et aujourd'hui, les freins qu'on met à l'entrée des jeunes, en particulier dans ce type de métier, sont des éléments qui vont freiner l'arrivée de gens comme ça dans notre, dans les, auprès de, enfin, comme entrepreneurs. Donc, je ne sais pas si c'est ça forcément la meilleure solution, mais en tout cas, je pense que ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie de l'écosystème. Moi, les entrepreneurs que je rencontre, ils sont assez variés, ils sont assez diversifiés. Évidemment, forcément, il y a beaucoup de mâles blancs qui sortent de grandes écoles, mais c'est pas, on a besoin de cela aussi, quoi.
Et dans le parcours de Vialet, c'est vrai que c'est jalonné de petites histoires qui montrent aussi qu'il y a toujours un prisme de différenciation avec des éléments, des marqueurs forts pour se différencier. Je pense notamment à la première levée de fonds où vous aviez réuni une quarantaine de personnes février 2010, je crois, avec une tirelire. Mmh. Comment vous allez chercher ces idées-là? Est-ce qu'elles viennent toutes seules? Est-ce que vous êtes proactif, vous scannez un peu tout ce qui se passe? Et puis racontez-nous un petit peu quand même, en deux mots, ce moment un peu étrange.
En fait, je discutais avec des fonds d'investissement. Donc c'était fin 2009, début 2010, je discutais avec des fonds d'investissement. Et je pense qu'il n'y en avait aucun qui prenait la mesure de ce qu'on voulait faire. Et donc je sors d'un rendez-vous et j'appelle Pierre Emmanuel, je lui dis « Écoute, on ne va pas lever d'argent comme ça. Moi, quand je parle à mes amis ou à mes anciens clients, etc., je leur parle de Vialet. Ils ont les yeux qui brillent et quand je leur dis ce qu'on a envie de faire, à ce moment-là, on venait à peine de présenter notre premier proto de notre ampli. Et donc, on va réunir ces gens-là. Et l'idée, c'était, on va les réunir, on va présenter le projet et on va lever de l'argent en une soirée. Et en fait, ça naît parce que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que De Vialet aurait fait, en fait. Si De Vialet, si tu veux créer le futur leader mondial de l'audio, est-ce que tu n'inventes pas ta propre façon de faire, quoi? Et en fait, là, il faut. Donc là, j'ai dit, voilà, mais au fond, j'ai envie de quoi? Et je me suis dit, j'ai envie de réunir ces gens-là. J'ai envie de trouver un lieu symbolique pour les réunir. Donc, j'ai appelé une agence qui avait des lieux à louer et ils m'ont dit. Ah, on a un lieu. Ah, puis c'est marrant parce que les Rolling Stones ont fait un concert privé il y a 20 ans à cet endroit-là. Et je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des éléments qui forgent l'histoire, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'était la galerie Bailly, Quai Voltaire. Mm-hmm. Voilà, et puis on avait la grande salle, et puis on a réuni les gens là, et puis on avait une... On a présenté le produit, on avait nos 7 premiers produits, mais avec déjà avec un packaging, etc., qui avait été monté vraiment au labo. On a fait une écoute, on a présenté le projet, on a fait une écoute dans cette grande salle. On a fait, on avait une petite salle dans laquelle, dans le noir, on faisait une écoute. Tout le monde sortait en pleurant, voilà, parce qu'on voulait émouvoir les gens. Et on leur a offert un coup de champagne. Et à la fin de la soirée, Emmanuel avait, avec son épouse et sa fille, ils avaient dessiné un gros... enfin, ils avaient fait une grande tirelire. Et les gens mettaient leurs promesses d'investissement. À la fin de la soirée, il y avait 1 440 000 euros dans le cochon.
Rappelez-nous qu'il y avait...
Donc, il y avait une quarantaine de personnes, ouais. Et qui étaient des gens comme... il y avait le directeur général de la FNAC à l'époque, des anciens clients de Canal, patron de Studio Canal, il y avait des gens de Danone, il y avait des amis, des entrepreneurs.
Et Xavier Niel
ils n'étaient pas encore là. Non, ceux, eux, ils sont arrivés 2 ans après.
D'accord.
Et moi, je m'étais dit, si on a 500 000 euros à la fin de la soirée, notre million, on cherchait un million, on l'aura... on trouvera en rajoutant, dans la suite. Et il y avait 1 440 000 euros dans le cochon à la fin de la soirée. Et je me suis dit, on est en train de le faire. Quoi. On est en train de faire de Vialet. Le lendemain, je me suis réveillé en larmes, en fait. parce que c'était j'avais compris que on l'avait fait, tout le monde m'avait dit mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, c'était au pire moment, hein, c'est février 2010, on est en pleine crise, on est dans une période épouvantable, donc c'est ça pourrait pas marcher, il y a voilà, et donc on a levé plus d'un million d'euros comme ça, mais voilà, c'est, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de façon obligée de faire des choses. Il y a juste des choses qui marchent par rapport à ce que vous voulez construire. Voilà, donc inventez votre propre voie, quoi, profondément. Faites des choses qui vous correspondent, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont très difficiles pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont et qui peuvent être faciles pour d'autres. Il y a des choses qui sont très difficiles pour certaines personnes, mais que des gens, certaines personnes aimeront faire. Et donc, vous demandez à un alpiniste de faire 100 km sur du terrain plat, ce qui est très difficile à pied, il n'aura aucune envie de le faire et il le fera mal. Et vous lui dites, on va monter à l'Everest, et là, vous en ferez un homme heureux, et il arrivera là-haut, quoi. Donc, c'est, au fond, qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui correspond vraiment à ce que vous êtes, et au courage que vous aurez, au courage que vous aurez pas, que vous n'aurez pas, aux envies que vous avez, voilà. Et moi, j'ai ces courages et ces envies-là.
Et donc, pour boucler cet entretien, vos envies pour les 10 prochaines années, la vision de Vialet dans 10 ans, vous l'avez déjà écrite?
Alors, il y a des choses qui vont perdurer, hein, évidemment, sur la technologie, etc. Il y a un élément très important sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est en fait, qu'est-ce que la musique? Pourquoi on réagit comme ça à la musique? Et en fait, pourquoi... Hein, vous mettez une salle de cinéma avec des gens de 140 nationalités, il n'y a pas d'image sur l'écran, vous lancez la musique du film et on ressent tous la même chose. Et en fait, parce que l'émotion qu'on a de la musique, en dehors des faits de mémoire, je parle d'une qui ajoute encore quelque chose à la musique, mais pourquoi on ressent cette émotion? En fait, parce que la musique, elle a un effet fonctionnel pour nous, c'est-à-dire... Une attaque de corde ou un beat de batterie qui tombe comme ça, bam, ça provoque chez nous une production d'adrénaline. Et en fait, ou une musique qui est très douce, elle va provoquer des productions d'endorphines. Et c'est cette endorphine ou cette adrénaline qui provoque l'émotion. Et on va avoir les poils des bras qui vont s'hérisser, etc. Et de plus en plus de gens se rendent compte qu'on peut utiliser la musique aussi pour faire vraiment du bien aux gens, pour soigner les gens, pour leur faire mieux supporter la douleur et donc leur traitement, pour réveiller des zones du cerveau chez des malades Alzheimer ou en démence sénile, pour leur permettre, de, grâce à la plasticité du cerveau, de vivre mieux, d'aider des enfants autistes aussi à se connecter avec eux-mêmes et se connecter plus facilement aux autres, et donc que la musique est, enfin la musique nous fait du bien, mais la musique nous fait du bien, mais on est au début de la connaissance de ça en fait, et les recherches et les développements dans ce domaine-là sont absolument gigantesques. Donc moi, ce que j'ai envie de construire, c'est une entreprise qui va être capable d'apporter du bien aux gens par la musique, mais aussi par la connaissance de la façon dont la musique nous fait du bien. D'apporter, d'être capable de nous suggérer, de nous offrir de la musique, des sons qui vont être capables aussi de nous permettre de vivre mieux. De la même façon que notre nourriture est notre première médecine, la musique peut être aussi notre première médecine et nous permettre de mieux vivre avec des handicaps ou de mieux vivre avec simplement notre vie émotionnelle ou d'être soigné ou être accompagné dans les soins qu'on peut recevoir. C'est ça que je veux faire.
Belle aventure en perspective. Merci Quentin Saignier.
Merci beaucoup Guillaume.
Vous venez d'écouter Take-Off. Un très grand merci. Et si vous aimez les podcasts, je vous invite vivement à découvrir Sillage, réalisé par ma consoeur Déborah Loy. Elle y reçoit des personnes qui se sont relevées après un échec, un accident. Et c'est très très inspirant.